Dendri chigi nga ga lam le, ini xie kwaya. Dendri chigi yon dekidwa, nga zi nyin nyin suay na le di yon dekidwa.
Donc nous en revenons à la façon de comprendre quelle est la base des phénomènes et de notre appréhension des phénomènes. Et pour cela, il faut aussi considérer comment, de quelle façon notre esprit peut appréhender ces phénomènes. Alors là, il y a plusieurs manières selon la nature de ces phénomènes. L'une est le fait que certains phénomènes, nous pouvons immédiatement, sans réfléchir, en appréhender la nature. C'est quelque chose qui est évident à l'expérience directe. Il y a une deuxième catégorie de phénomènes dont on ne peut comprendre la nature qu'après avoir fait un certain examen, par une déduction par exemple. Et puis il y a une troisième sorte de phénomènes qui ne sont pas immédiatement accessibles à notre connaissance, quels que soient les efforts de réflexion et d'analyse que nous pouvons faire et pour lesquels nous devons parfois nous en remettre au témoignage d'une troisième personne. Parce que ces phénomènes nous sont pour l'instant cachés et donc ne sont pas immédiatement accessibles. Pour revenir un peu plus en détail sur ces différents types, sur ces différentes catégories, il y a donc ce dont nous pouvons faire l'expérience directe. Par exemple, lorsque nous voyons une forme, nous entendons un son, lorsque nous goûtons quelque chose, ça c'est pour une des perceptions des objets extérieurs. Également pour ce qui est des sensations intérieures, des sensations de joie ou de souffrance, ou bien une sensation neutre, tout cela, on peut l'apprécier directement. Ou bien si notre intention est droite, ou si notre intention est déplacée, c'est-à-dire que si nous avons une mauvaise intention ou une bonne intention, tout cela, on peut en faire l'expérience directe. Et il y a aussi d'autres phénomènes qui requièrent une analyse plus poussée pour en déterminer la nature, qui ne sont pas aussi évidentes à première vue, mais qui restent néanmoins accessibles à l'analyse. Et donc, ce qu'il faut pour avoir une juste compréhension des phénomènes, c'est que nous ayons un mode de connaissance qui soit valide. Il faut pour ça que notre intellect et nos sens ne soient pas confus. Dans cette catégorie d'investigation aussi, dans notre expérience, il y a le phénomène de mémoire. C'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre. On se rappelle d'actions de notre corps que nous avons, par exemple, tel ou tel jour dans le passé, été acheté, enfin des provisions, acheté du beurre. Et certes, notre corps a entièrement changé depuis, c'est-à-dire que toutes les molécules de notre corps se sont transformées. Mais il y a une continuité entre la relation entre le corps et la conscience qui fait que on se souvient d'expériences passées, plus ou moins bien. Et cette continuité fait aussi que certaines personnes même se rappellent d'expériences vécues dans des existences passées. Et c'est quelque chose qui se produit parfois, c'est des gens qui n'ont aucune croyance nécessairement dans le phénomène des renaissances ou de continuité de la conscience. Mais il y a eu indiscutablement des cas extrêmement précis et étonnants d'enfants qui reconnaissent des lieux, des maisons, les familles, les personnes qui vivent dans ces maisons. Et d'où vient donc cette mémoire? Pour ce qui est des objets, on peut les mesurer, mais quand c'est simplement un sentiment ou une pensée ou une mémoire, on ne peut pas la mesurer comme un phénomène physique. Également, pour ce qui est de l'influence qui peut se produire sur ces deux types de phénomènes, les phénomènes du monde de la forme ou des phénomènes substantiels ou matériels, et les phénomènes animés. Pour ce qui est de la forme, lorsque des phénomènes extérieurs sont confrontés à des conditions et des circonstances qui sont favorables à leur épanouissement, donc ils vont se développer, s'épanouir. Lorsqu'il y a des circonstances adverses, ils peuvent diminuer. De même, pour ce qui est de nos sentiments et de l'expérience de la pensée, et du simple fait de faire l'expérience de quelque chose du point de vue purement de la conscience, il y a aussi des causes et des conditions adverses et favorables qui font que certains sentiments ou certains événements mentaux vont se renforcer et d'autres vont perdre de leur force. Également, cela s'applique aux différentes transformations des phénomènes. Et donc aussi bien les causes extérieures que les causes intérieures et les phénomènes animés comme les phénomènes inanimés vont se développer ou se réduire suivant l'influence des conditions favorables ou défavorables. Par exemple, si nous avons une substance matérielle et qu'on la met en contact avec une autre substance, et bien il peut y avoir une réaction qui fait qu'il y a une transformation. De façon identique, du point de vue du flot de la conscience, il peut y avoir des pensées qui s'ajoutent à ce flot de conscience et qui vont modifier les caractéristiques de ce flot de conscience. Donc il y a tout ce jeu d'influence qui se produit lorsqu'on introduit de nouveaux éléments qui n'étaient pas présents auparavant et qui permettent de transformer aussi bien les phénomènes matériels que les caractéristiques du flot de la conscience. Maintenant, pour ce qui est de cette nature animée ou inanimée des phénomènes, eh bien, le simple fait pour eux d'exister en tant que phénomène inanimé, les formes, les sons, c'est leur existence simple, c'est la nature des choses. Leur transformation naît de causes et de conditions, mais le simple fait qu'elles soient là, dans l'univers, c'est simplement dû à leur nature. De la même façon, la conscience, le phénomène conscient, eh bien, c'est par la nature des choses qu'il existe un phénomène conscient par rapport à la non-existence de ce phénomène. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la façon dont il se modifie et de voir que la façon dont il se déploie, se modifie, vient par l'interdépendance, l'origine en dépendance d'autres phénomènes, par le jeu des causes et des faits. Et la façon dont ces phénomènes interagissent peut être de plusieurs sortes. Il y a simplement au travers de relations, d'influences réciproques, ou alors une transformation substantielle, quand par exemple des substances sont mises en contact avec d'autres et qu'elles interagissent au niveau substantiel, pas seulement au niveau d'une interaction par la simple coexistence de ces phénomènes. Et donc, si l'on comprend ce jeu des phénomènes, de l'interdépendance, des causes et des effets, on peut en déduire des règles de transformation. On peut se dire, si on veut atteindre tel ou tel but, si on a besoin de cela, eh bien, ce sont tel ou tel phénomène qu'il faut mettre en œuvre, telle ou telle cause et condition qu'il faut développer. Et si on veut se débarrasser d'une autre chose, eh bien, ce sera telle autre cause et condition qu'il faudra mettre en œuvre. Et donc, on peut ainsi en déduire ce qu'il convient d'accomplir ou ce qu'il convient d'éviter pour obtenir tel ou tel résultat. Et donc, tout un système de ce qu'il convient de faire et de rejeter peut être mis en place sur la compréhension de la nature des phénomènes. Également, dans cette façon dont nous avons de percevoir les phénomènes, il y a très souvent une différence entre la nature des choses et la façon dont elles nous apparaissent. Bien sûr, dans certains cas, on voit les choses telles qu'elles sont, mais la plupart du temps, nous voyons les choses différemment. C'est-à-dire la façon dont elles nous apparaissent n'est pas en harmonie ou en accord, n'est pas conforme à leur nature véritable. Et ça, on le voit très souvent, aussi bien chez les êtres humains que chez les animaux. Nous commettons des erreurs. Nous prendrons quelque chose pour une autre. Il y a toutes sortes de méprises qui se produisent constamment dans l'existence et qui nous trompent, qui nous induisent en erreur. Ça, c'est pour nos perceptions ordinaires, comme de voir une forme et de penser que c'est autre chose. Et donc, ce genre de confusion se produit très souvent. Mais il y en a d'autres qui sont plus subtils. Par exemple, les phénomènes sont impermanents par nature, jusqu'au niveau le plus subtil. Rien ne peut demeurer, aucun phénomène ne peut demeurer identique à lui-même deux instants successifs. Ça, c'est la nature des choses. Mais la façon dont nous le percevons, bien souvent, c'est comme quelque chose de permanent. Un objet, nous pensons qu'il existe, qu'il est permanent, qu'il semble solide, alors qu'en fait, il change à chaque instant. Donc là, il y a de nouveau la façon dont les choses apparaissent à nous et la façon dont elles sont, il n'y a pas conformité. Ou encore, il y a des choses qui nous semblent très attrayantes, qui nous semblent être source de bonheur et qui en fait sont source de conflits, de troubles et de tourments. Donc, elles nous apparaissent comme étant extrêmement attrayantes, et alors que leur nature est en fait une source d'ennui et de tourment. Un autre exemple, l'altruisme, par exemple, le fait d'être concerné par autrui, de chérir autrui, peut a priori ne pas sembler nécessaire à notre bien-être personnel. Et donc, il nous apparaît que nous occuper simplement de nous, c'est la meilleure façon d'être heureux. Mais alors qu'en réalité, on ne peut devenir heureux qu'au travers du bonheur des autres, au travers de la compréhension de l'interdépendance. Et donc, celui qui est centré entièrement sur lui-même et pense ainsi être heureux, eh bien, il y a un manque de conformité entre la façon dont les choses nous apparaissent et dans la façon dont elles sont. Pareillement, nous avons ce sentiment d'un moi qui est semble être le seigneur de notre être, le centre même de notre être, et nous pensons bien qu'il existe, mais ça c'est la façon dont nous percevons les choses. En réalité, si l'on cherche moi, on ne le trouve ni dans le corps, ni dans le flot de la conscience, et donc il n'existe pas en lui-même. Là de nouveau, il y a une différence entre la façon dont nous percevons les choses et dans la façon dont elles sont. Donc en bref, ces fausses perceptions sont de percevoir la permanence dans ce qui est impermanent, de percevoir comme une source de bonheur ce qui n'est souvent une source de souffrance, de percevoir qu'il y a un soi ou une entité personnelle là où il n'y en a pas, et de ne pas comprendre que l'altruisme est à la racine même de notre bonheur, et de penser au contraire que c'est en nous préoccupant que de nous-mêmes que nous serons heureux. Donc il y a toutes sortes d'exemples à des niveaux extérieurs ou de plus en plus subtils dans lesquels il y a cette différence entre la façon dont les choses sont et la façon dont elles apparaissent. Et cela est clairement apparent dans le phénomène de la perception. Par exemple, si nous voyons une forme avec l'organe de la vision, qui est l'œil, eh bien, la conscience va commencer par enregistrer simplement cette perception telle qu'elle est, avant que des concepts ne soient venus interférer. Au premier instant, mais ça ne dure qu'un seul instant, il y a une perception qui est simultanée à l'objet lui-même, et qui n'est pas conceptuelle, et qui n'est pas mélangée donc avec l'élaboration intellectuelle, et dans lequel l'objet est perçu tel qu'il est, sans aucun concept qui ne soit attaché. Et là donc, c'est une perception pure, disons, et directe et instantanée. Mais dès l'instant d'après, la pensée va venir en jeu. Il va y avoir une image mentale de cet objet qui va se créer dans le flot de notre conscience. Cette image mentale, elle va tout de suite être mélangée avec des concepts. Notamment, par exemple, on voit cet objet, on se dit, tiens, j'ai vu cet objet hier. Donc la pensée de la permanence se mélange à cette perception. Donc là, nous tombons de nouveau dans une différence. Donc nous devons connaître deux choses si nous voulons avoir une connaissance juste des phénomènes. C'est d'abord la base des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent, des phénomènes extérieurs qui déclenchent toutes ces perceptions. Mais aussi, nous devons connaître la nature de l'agent, du sujet qui connaît ces phénomènes. De quelle façon est-ce que la perception fonctionne et de quelle façon notre conscience travaille et fonctionne. Et donc, nous en venons également à comprendre que la principale raison qui fait que nous n'avons pas une connaissance juste de notre esprit et que nous ne sommes pas capables de maîtriser notre esprit afin d'atteindre à la plénitude et au bonheur, c'est parce que nous ne sommes pas conscients ou nous n'avons pas connaissance de la nature ultime et profonde de la conscience. Et pour cela, il y a aussi plusieurs aspects. Il y a la nature, selon la vérité conventionnelle de la conscience, il y a la nature de la conscience du point de vue de la vérité absolue. Et donc, au sein de cette conscience, il devient clair que ce qui nous empêche de maîtriser la compréhension de notre esprit, ce sont les facteurs mentaux obscurcissants qui voilent la notion de cet esprit, ce qu'on appelle les kleshas, ou les toxines mentales, les poisons mentaux. Et donc, puisqu'ils sont non seulement les causes qui nous empêchent de maîtriser notre esprit, mais qui par conséquent conduisent à la souffrance, et il est donc important de savoir comment ces kleshas, ces facteurs mentaux, ce se forment. Car de là, si on ne comprend pas ça, eh bien, il est sûr que ce qui va suivre, ça va être la souffrance. Donc, analyser la nature de ces facteurs mentaux obscurcissants, comment ils se forment, comment peut-on les éliminer, est au cœur de notre quête d'éliminer la souffrance. Lorsque l'on envisage la voie ou le chemin de l'enseignement du Bouddha, ce qu'on appelle le dharma, nous avons vu qu'il y avait plusieurs sens à ce mot dharma et que l'un était celui de protéger. Mais ici, de quoi est-ce que nous allons chercher à être protégés? C'est de la souffrance, ce que nous voulons éviter. Et la meilleure protection, ce serait si le dharma pouvait nous permettre de précisément de transcender la souffrance. C'est ce qu'on appelle le nirvana. Le nirvana veut dire étymologiquement ce qui est au-delà de la souffrance, ce qui est au-delà de ce qui nous afflige. Et ce qui nous afflige, ce sont précisément ces facteurs mentaux obscurcissants, les kleshas, car ce sont les moteurs et les sources de la souffrance. Et donc, le nirvana, c'est de transcender, de se débarrasser de ces toxines mentales, de ces kleshas. Et là, nous avons vraiment un véritable refuge ultime. C'est pour ça qu'on dit que l'aspect ultime du dharma, c'est le nirvana, c'est ce qui est au-delà des facteurs mentaux obscurcissants et qui nous afflige. La protection ultime à l'égard de la souffrance. Maintenant, si on regarde la nature de ce nirvana, eh bien, certes, c'est aussi la nature fondamentale de notre esprit, mais ce n'est pas une entité. Le nirvana n'est pas une entité permanente. Il n'a pas toujours été là comme le résultat d'une connaissance, d'une réalisation spirituelle. Ce n'est pas comme le simple fait d'exister qui est un fait. On dit que c'est la nature des choses. L'existence est là. On ne peut pas la nier. Elle n'a pas besoin de justification que le simple fait que le monde des phénomènes existe. Tandis que le nirvana est le résultat d'une transformation purification, il y a là un événement nouveau qui est lié de notre effort de purification par rapport aux facteurs mentaux obscurcissants, qui sont liés à des causes et des conditions. Et l'accomplissement de ce but, de ce nirvana, dépend de soi. Cela rentre donc dans le cadre des quatre nobles vérités. Le Bouddha a d'abord énoncé la vérité de la souffrance qui doit être reconnue, et puis reconnaître les causes de la souffrance, les kleshas, la voie qui va permettre la cessation de la souffrance et le fruit qui est donc ce nirvana. Et ce que nous cherchons, c'est à l'évidence le bonheur, éliminer les souffrances. Et pour cela donc, en bref, il faut maîtriser notre esprit, éliminer les kleshas et ainsi jouir du fruit. On voit donc que les quatre nobles vérités résument l'ensemble de ce qu'est le dharma, de ce que sont les différents éléments du dharma, la reconnaissance de la souffrance, de ses causes, le but qui était d'atteindre, qui est de passer au-delà de la souffrance, et les étapes de la voie, c'est-à-dire ce qu'il convient d'accomplir et de rejeter afin d'obtenir ce résultat. Et pour reprendre la façon de mettre en œuvre, d'utiliser ces quatre nobles vérités, il y a d'abord donc la souffrance. La vérité de la souffrance doit être reconnue, parce que si on ne reconnaît pas le samsara comme meilleure nature de souffrance, on n'aura aucune motivation pour s'en débarrasser. Donc la souffrance doit être identifiée. Deuxièmement, la deuxième noble vérité concerne les causes de la souffrance, c'est-à-dire les kleshas, les émotions ou les pensées, les facteurs mentaux obscurcissants ou affligeants. Et ceux-ci, bien sûr, comme ils sont causes de souffrance, doivent être interrompus. Ils doivent être arrêtés. Et donc, les facteurs mentaux obscurcissants, la deuxième vérité, c'est qu'ils doivent être éliminés. Ensuite, notre but, c'est d'actualiser l'absence de la souffrance. Et l'absence de la souffrance qui vient donc de mettre un fin à cette souffrance. C'est la troisième vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance, ou bien de nous séparer de cette souffrance, de l'annihiler. Ce qu'il doit faire à propos de cette troisième vérité, c'est l'accomplir, l'actualiser. La troisième vérité, c'est l'accomplir, l'actualiser, le faire en sorte qu'elle se produise. Mais pour ce faire, il faut bien sûr mettre en œuvre des moyens appropriés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la vérité de la voie qui doit être mise en œuvre, la voie qui doit être méditée, qui doit être accomplie, parce que c'est ce qui va permettre la cessation de la souffrance. Donc nous avons ces quatre nobles vérités. La première doit être reconnue, la cause de la souffrance doit être éliminée, le résultat doit être actualisé et la voie doit être méditée. Le message de ces quatre vérités est donc lié au but, bien sûr, que nous nous proposons, c'est-à-dire la totale élimination de la souffrance. Et pas simplement une élimination temporaire, comme on se débarrasserait de quelque chose qui va revenir, mais en se débarrassant des causes mêmes de la souffrance, s'en débarrasser d'une façon telle qu'elle ne revienne pas, qu'elle ne va pas de nouveau renaître. Et donc, cela implique une élimination définitive par la connaissance, une élimination définitive des kleshas ou des émotions ou des pensées obscurcissantes, de sorte qu'elles n'ont plus aucune cause qui ferait que de nouveau elles se produisent dans notre esprit. Et donc tout ce qui doit être éliminé a été éliminé, tout ce qui est accompli doit être accompli a été accompli. Donc c'est le point culminant de ce travail de transformation qui conduit à une félicité ou une plénitude qui elle devient durable de ce fait. Et donc ces quatre nobles vérités sont exposées par le Bouddha lors de ce qu'on appelle la première épisode de la mise en mouvement de la roue du Dharma. Et ces quatre vérités que nous devons exposer, elles ont ensuite aussi été analysées et détaillées de façon extrêmement subtile et précise, notamment dans le deuxième épisode durant lequel le Bouddha a mis en mouvement la roue du Dharma. Et chacune de ces vérités peut être analysée et être un sujet de réflexion extrêmement profonde. Par exemple, ce qu'on appelle le nirvana, la cessation de la souffrance, quelle est sa nature, à quoi correspond-il? Il y a toute une analyse, il y a de très nombreux points de réflexion à ce sujet. En ce qui concerne les facteurs mentaux obscurcissants, intéressant. Il y a bien sûr les facteurs mentaux grossiers, comme toutes les émotions grossières, mais il y a aussi des aspects beaucoup plus subtils de la conscience qui restent aussi facteurs d'obscurcissement mental et donc et qui peuvent être analysés de façon extrêmement subtile. En ce qui concerne la voix également, on peut décrire toutes sortes de caractéristiques, toutes sortes d'aspects de cette voix. Et donc, c'est surtout les enseignements de la Prajna Paramita, les enseignements de la connaissance transcendante qui correspondent au deuxième mise en mouvement de la roue du Dharma, qui analyse tout cela et qui montre également comment il est indispensable d'unir la sagesse, la connaissance de la vacuité avec les moyens habiles tout à fait extraordinaires qui dans ce cas sont ceux de la pensée de l'éveil, la bodhicitta, le vœu altruiste d'atteindre l'éveil pour le bien d'autrui, et particulièrement est mis en évidence ici le rôle essentiel de la compassion, l'importance de développer la compassion afin d'engendrer une énergie extrêmement puissante qui nous rapprochera de façon extrêmement efficace du but, c'est-à-dire de la sagesse ultime, la compréhension de la vacuité. Cette compassion qui est liée à un esprit altruisme extrêmement profond, une motivation parfaitement pure, c'est donc ce qui a été mis surtout en œuvre ou a été exposé dans ce deuxième épisode de la roue du Dharma. Également, en ce qui concerne, on peut mettre aussi plus l'accent sur le troisième épisode de la mise en mouvement du roue du Dharma, dans lequel l'accent est mis sur la nature du sujet, c'est-à-dire la conscience. Et l'on parle alors de la luminosité fondamentale de l'esprit, de la nature de Bouddha qui est inhérente à chaque être, qui est inhérente à la nature ultime de l'esprit, ce qu'on appelle le Tathagatagarbha, l'essence de la bouddhéité. Et donc cet enseignement, qui était par exemple dans un texte comme le Gulama et d'autres, ce profond sutra, vient s'insérer dans ce cadre. Donc on voit qu'au fil de ces trois épisodes, les quatre vérités sont exposées de façon de plus en plus profonde. Donc pour cela, il faut également comprendre comment s'intègre cette notion des trois joyaux, du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Parlons d'abord par exemple de la Sangha, la communauté. Il y a deux aspects dans cette communauté. Il y a le Bouddha comme individu qui a atteint l'excellence au point le plus suprême de la connaissance. Et puis il y a tous ceux qui sont engagés sur la voie. Ce sont là donc des individus, des personnes. Mais il y a aussi les qualités qui caractérisent l'état de conscience de ces personnes, les qualités spirituelles qui sont développées au long de la voie. Donc ces qualités sont d'abord minimes, ordinaires, et puis peu à peu, elles deviennent de plus en plus suprêmes ou sublimes à mesure que la confusion de l'esprit se dissipe et que la réalisation de la nature des choses s'accentue. Et donc nous avons des individus qui ne sont plus ordinaires, mais qui néanmoins continuent à s'entraîner, à se perfectionner sur la voie. Et puis il vient un jour où le point ultime de la voie est atteint et il n'y a plus rien à apprendre, et donc nous avons la Sangha ou les qualités qui ont atteint leur point ultime. Donc c'est en fonction de leur qualité intérieure que l'on distingue ces différents niveaux dans la Sangha ou dans la communauté de ceux qui sont engagés sur la voie. C'est donc au niveau de l'esprit, au niveau des qualités qui résident dans la conscience. Ce n'est pas au niveau de l'aspect physique, de la force, de la beauté, de la dextérité physique, mais bien ces qualités sont liées à notre flot de conscience. Et ces qualités, en quoi vont-elles se manifester? Ces qualités vont se manifester dans le sens que le fossé qui distingue la nature des choses avec la façon dont elles nous apparaissent, ce fossé va peu à peu se combler. C'est-à-dire que peu à peu, on va voir de plus en plus les choses telles qu'elles sont. Et de façon ultime, on va voir les choses telles qu'elles sont véritablement, sans aucune confusion, sans aucune altération. Maintenant, pour atteindre à ce but, il faut unir à la fois une pacification de l'esprit, un de calme mental, une pacification des pensées confuses, des pensées, des émotions négative et en même temps une vision élargie, une perspective plus profonde et donc unir ce calme intérieur avec la vision profonde. C'est ce qu'on appelle l'union du shamatha et du vipassana. Pour atteindre ce but, il faut aussi employer une concentration extrêmement claire et puissante, ce qu'on appelle le samadhi ou la concentration en un seul point, de sorte que finalement on arrive à la compréhension de la nature ultime des choses qui est la vacuité, c'est-à-dire la vacuité d'existence propre des phénomènes. Et il faut ensuite maintenir cette compréhension. Et peu à peu, on arrivera donc au point ultime de cette actualisation, de cette compréhension qui est de finalement reconnaître la nature ultime des phénomènes et donc de ne plus tomber ou perdre cette compréhension. Donc cela c'est très différent de ce qu'on appelle la vision limitée des êtres ordinaires, ce qu'on appelle des enfants parce qu'il leur manque cette compréhension de la nature des choses. Et là, nous avons donc des êtres qu'on appelle sublimes ou extraordinaires du point de vue de leur compréhension de la nature des choses. Donc les êtres ordinaires qui ne voient que leur propre perception erronée, c'est ça qui fait pour eux une différence entre le samsara, ce qu'ils perçoivent, et le nirvana qui leur reste caché parce qu'il leur manque la compréhension et la connaissance qui caractérise l'au-delà de la souffrance. Donc lorsqu'on atteint, qu'on actualise ce nirvana, il est évident de par lui-même, c'est une expérience directe qui nous fait comprendre que la souffrance et les causes de la souffrance ont disparu et que nous maintenant, nous percevons la nature des choses telle qu'elle est. Donc tout cela, cette compréhension de plus en plus vaste, de plus en plus profonde, c'est ce qu'on appelle le dharma. Et le dharma est la source de toutes ces qualités. C'est par le dharma que l'on passe de l'état d'être ordinaire à l'état d'être sublime qui sont sur le chemin et finalement à l'état d'être sublime comme le Bouddha qui n'est arrivé au bout du chemin, qui n'a plus rien à apprendre parce qu'il a éliminé tout ce qui est à éliminer et développé tout ce qui est à développer. Donc quand on parle des trois joyaux du Bouddha, du dharma et de la sangha, le joyau ultime c'est le dharma car c'est celui qui permet d'actualiser la cessation de la souffrance, d'actualiser le nirvana, c'est celui qui permet d'atteindre la connaissance ultime. Tous les Bouddhas donc naissent, viennent du dharma. C'est donc de ces trois joyaux le principal et le refuge ultime parmi les trois joyaux, c'est le dharma. La connaissance de la nature de ces trois joyaux est intimement liée donc avec ces quatre vérités. Ce qui nous permet, dans notre quête d'élimination de la souffrance, ce qui nous permet de reconnaître ce qui doit être éliminé pour se débarrasser de la souffrance, quelle est la voie qui permet d'effectuer cette élimination, quel va être le résultat de cette élimination des causes de la souffrance, tout ça c'est le dharma qui nous dit cela. Donc c'est l'enseignement qui nous éclaire sur ce sujet. Donc ça c'est le joyau qu'on appelle le dharma. Maintenant, celui qui nous montre ce dharma, c'est le Bouddha. Celui qui nous protège en nous montrant le chemin, en nous enseignant le dharma. Et c'est là le deuxième joyau, le Bouddha. Et puis il y a aussi ceux qui sont engagés sur cette pratique, qui ont commencé de façon authentique à faire quelques pas sur le chemin de cette actualisation de la cessation de la souffrance. Donc ceux qui sont sur le chemin, qui ont entrepris ce processus de transformation, c'est ce qu'on appelle la sangha. Et on voit que ces trois joyaux sont intimement liés aux quatre vérités, à reconnaître la souffrance, les causes de la souffrance, la qualité de la voie et la nature de la cessation. C'est le dharma, celui qui le montre et ceux qui les pratiquent. Il convient également de dire quelques mots, avant d'entreprendre l'étude du texte même de la lampe pour la voie de l'éveil, de voir comment s'est développé et s'est transmis l'enseignement du Bouddha. Au début, nous avons deux collections d'enseignements. Tout d'abord, le canon Pali. Il y a un très grand nombre des sutras qui sont connus uniquement en Pali. Et puis, il y a aussi une autre langue qui a été utilisée au départ, qui était moins répandue, mais qui ensuite a pris de plus en plus d'importance dans la transmission des enseignements du Bouddha, qui est le sanskrit. Et principalement en Inde, c'était à l'université de Nalanda que cet enseignement au travers du sanskrit s'est développé. Et d'ailleurs, les plus grands des pandites ou des érudits, des êtres accomplis de l'Inde, ont enseigné à Nalanda, comme ce fut le cas de Nagarjuna, d'Aryadeva, et tous les grands commentaires qui expliquent les enseignements du Bouddha ont été pour la plupart écrits et enseignés à Nalanda. Donc au Tibet, c'est cette même tradition qui s'est répandue à partir du 7e siècle. Et si les premiers pandites de l'Inde ne sont pas venus au Tibet, lorsque ces premiers grands maîtres indiens vinrent au Tibet, ce furent l'abbé Shantarakshita, qui venait précisément de Nalanda, qui était le premier à introduire non seulement la lignée monastique, mais aussi l'enseignement de la voie du milieu, du Madhyamika, selon la tradition de Nalanda, ainsi que son disciple Kamalashila, tous deux qui datent de cette première époque de la transmission du Dharma, la tradition dite ancienne. Et plus tard, vint Atisha, le pandit Atisha, qui lui aussi commença sa formation à Nalanda. Ensuite, il alla à l'autre université importante qui est celle de Vikramashila. Et la plupart des grands traducteurs tibétains, un grand nombre aussi, vinrent se former en Inde dans cette tradition de Nalanda. Et grâce à cet ensemble, à cette union des grands maîtres de l'Inde et des traducteurs tibétains, la plupart des textes sanskrits et des textes pali furent traduits tibétain. Et on peut dire sans se tromper que le dharma, l'enseignement du bouddhisme tibétain, s'inscrit dans la tradition de Nalanda. Et cela est vrai pour toutes les différentes écoles du bouddhisme tibétain. Si l'on voit quels sont les principaux textes qui s'étudient au cours de leurs études, tous les shastras, il y a les grands commentaires qui viennent de l'Inde, les textes sur pramana, la logique, les textes sur la cosmologie et les éléments de la voie, l'abhidharma, toutes ces écritures sont basées sur les commentaires qui étaient enseignés et qui étaient en vigueur à la grande université de Nalanda. Pour revenir sur cette diffusion du bouddhisme au Tibet, il vient donc de cette tradition de la grande université bouddhique de Nalanda. Le premier de ces grands maîtres de Nalanda qui vint au Tibet fut donc l'abbé Shantarakshita, qui fut accompagné par le maître né du lotus, Padmasambhava, ou Guru Rinpoche, le précieux maître, qui accorda sa bénédiction au Tibet et par la bonté duquel le bouddhisme put se répandre. Et grâce à sa présence, Shantarakshita put instaurer au Tibet non seulement le Vinaya, la discipline du bouddhisme, mais aussi la tradition de tous les textes, la transmission des écritures de Nalanda. Plus tard, également, le maître Atisha vint au Tibet. Il vint tout d'abord à l'ouest du Tibet, à l'invitation de l'un des rois qui était dans la province de Ngari. Et on sait qu'il y a le premier grand roi du Tibet, Son Sengampo, avait deux principales descendances. Il y a eu donc deux rois qui étaient de la descendance de Son Sengampo. L'un qui s'était établi dans l'ouest du Tibet, cette province de Ngari donc, et qui s'appelait Lhasun Changchub E, et qui donc a reçu Atisha et l'a invité au Tibet. Et c'est pour lui que Atisha a composé ce texte que nous allons étudier maintenant, qui s'appelle « La lampe pour la voie de l'éveil ». Alors, le texte, j'en ai reçu la transmission pour ce qui est simplement le texte racine, le texte lui-même, d'un grand maître, d'un érudit de Drepung, qui s'appelait Geshe Kunu Rizing Tempa. Et lui-même, je pense, mais je ne suis pas tout à fait sûr, l'avait reçu du grand maître Kansar Dorje Chang, le Vajradhara de Kansar. J'ai également reçu une autre fois la transmission de ce texte racine, de Serkong Rinpoche, qui lui-même l'avait reçu de quelqu'un qui s'appelait Gedun Tashi, qui lui-même l'avait reçu de ce maître que j'ai mentionné précédemment, Kansar Dorje Chang. Lorsque Serkong Rinpoche m'a donné la transmission de ce texte racine, il n'a pas utilisé un commentaire, mais il avait à l'esprit, parce qu'il le connaissait presque par cœur, le commentaire de grand pandita Lobsang Chögyen. Et donc, sans utiliser vraiment un texte, ce qui fait que je n'ai pas reçu la transmission par la lecture de ce commentaire, mais néanmoins, il a utilisé donc ce vaste commentaire de Pensen Lobsang Chögyen. Ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous transmettre ce texte racine et de m'appuyer parfois sur les commentaires de Lobsang Chögyen. Le texte que nous allons étudier dans ce texte d'Atisha s'appelle « La lampe pour la voie de l'éveil », qui est le texte de la voie de l'éveil qui est ici la voie graduelle du grand véhicule. Le texte commence par rappeler le titre en langue sanskrite qui dit donc Bodhipatta Pradipam. En tibétain, c'est la lampe sur la voie de l'éveil. Alors quand on parle de l'éveil, c'est un mot, donc la bodhi ou l'illumination. Il y a deux syllabes en tibétain, le chang chup. Chang a une idée de purification et chup de richesse, d'accumulation, de développement. Tout d'abord, de quoi est-ce que allons-nous nous purifier? À quoi ça correspond cette purification? Cette purification, c'est une liberté. On se libère, on annihile quelque chose par cette purification. Et de quoi se débarrasse-t-on? C'est de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est bien ça que l'on purifie. Maintenant, de quoi est-ce que nous sommes devenus riches? Qu'avons-nous acquis? Eh bien, ce que nous avons acquis, ce sont toutes les qualités de l'éveil. Ces qualités, elles ne viennent pas d'elles-mêmes toutes seules. Elles sont le résultat d'un effort. Elles sont le résultat d'un enrichissement. C'est l'un des sens du mot chup. Et d'un enrichissement qui se produit dans le domaine des qualités spirituelles par l'utilisation des antidotes. À mesure qu'on utilise des antidotes aux causes de la souffrance, eh bien, le plus on met en œuvre ces antidotes, le plus les qualités qui correspondent à l'élimination de l'ignorance vont se développer. Donc il y a là un développement de la connaissance par différentes méthodes et au fur et à mesure que ces qualités se développent, on devient de plus en plus riche dans ces qualités. Donc en résumé, Chang Chup, ça veut dire purifier ou éliminer ou se séparer de tout ce qui est à éliminer, de tout ce qui fait obstacle à l'éveil, et de devenir parfaitement riche du point de vue ultime dans les qualités de cet éveil. Donc ici, quand on en parle, nous avons dit de Changchu pour indiquer le nom Bodhi. En sanskrit, il n'y a qu'un seul mot, mais ce mot de Bodhi ou de Bouddha a ses différents sens. Il a le sens de purification, il a le sens d'enrichissement, d'acquisition, il a le sens de développement, d'épanouissement, de floraison. Et c'est pour ça que les traducteurs tibétains, pour rendre ces différentes nuances, ont utilisé ces deux syllabes, chang, qui réfère à la purification, et chup, qui réfère au développement ou à l'acquisition. Maintenant, quand on parle de bodhi, ou d'éveil, ou d'illumination, il y a différents niveaux au sein du bouddhisme. On parle de la bodhi ou de l'éveil des shravakas, c'est-à-dire des auditeurs, qui sont les aspects les plus élémentaires de la vue du bouddhisme, et puis des pratikya-bouddhas, ceux qui deviennent bouddhas par eux-mêmes, les bouddhas solitaires, tout ça, c'est de là qui appartiennent aux petits véhicules. Et puis il y a l'éveil ou la bodhi du grand véhicule, qui est l'éveil donc d'un bouddha parfaitement accompli, c'est le grand éveil. Et ça, c'est le but ultime. Maintenant, ce but, il y a une voie qui permet de voyager jusqu'à ce but. Donc nous avons dans le titre, quand on dit le flambeau, le chemin de l'éveil, donc ça c'était de l'éveil. Ensuite, nous avons le chemin, donc ce qui permet d'atteindre l'éveil, qui en sanskrit se dit pata. Et puis le flambeau, qui en sanskrit se dit padipam, qui est le flambeau, à quoi sert-il? Il sert à déchirer les ténèbres, d'abord de l'inconnaissance, ou de la connaissance erronée, ou de la connaissance contraire, ou inversée, confuse, et de nous éclairer sur ce chemin en dissipant toutes les erreurs et toute confusion. Donc c'est ça le sens du titre de cet ouvrage, La lampe pour la voie de l'éveil. Donc pourquoi est-ce qu'au début, vous voyez qu'il y avait d'abord le titre en sanskrit et puis le titre en tibétain? Le fait de mentionner un titre sanskrit, Bodhi Pada Padipam, c'est pour noter l'authenticité de la lignée spirituelle qui a permis l'écriture de ce texte. En effet, ce texte a été composé au Tibet par Atisha, mais étant d'origine indienne, il l'a composé en sanskrit. Et c'est un traducteur, donc Natso Lhotsawa, qui l'a traduit en tibétain. Donc c'est pour cela que tous les textes, et notamment les textes du canon bouddhique, c'est-à-dire le Tripitaka, les trois corbeilles, les 103 volumes du Kangyur, les textes, les paroles du Bouddha traduites en tibétain, ainsi que les plus de 220 volumes du Tengyur, c'est la traduction des commentaires faits par les grands pandites indiens, les shastras, tous commencent par cette formule Gyakarkato, dans le langage de l'Inde, et ils donnent le titre en langue sanskrite, pour bien noter l'authenticité de ces textes et donc engendrer une confiance dans cette authenticité. Alors, le sanskrit est effectivement une langue qui est extrêmement apte à rendre toutes les subtilités de l'enseignement du bouddhisme, car c'est une langue qui est extrêmement profonde, extrêmement riche. Et ensuite, il me semble que la langue qui est la plus propre à rendre ces enseignements du bouddhisme est le tibétain, car toutes les traductions ont été faites en étroite correspondance avec la langue sanskrite. C'est donc cet abbé, Shantarakshita, qui à l'époque fut invité par le roi Trisong Detsen, qui invita également le maître né du lotus, Padmasambhava. Et ce sont eux, donc Shantarakshita lui-même, qui commença la lignée monastique en donnant tout d'abord l'ordination à 7 jeunes tibétains. Et puis également conseilla au roi de faire traduire l'ensemble des textes du canon bouddhique sanskrit en tibétain, sous l'inspiration aussi de Guru Padmasambhava. Et donc suivant la tradition de Nalanda. Donc tous ces textes furent effectivement traduits et comme beaucoup d'originaux de ces commentaires et de ces textes racines ont disparu maintenant en sanskrit, le Tibet est donc devenu une sorte de trésor dans lequel repose la collection la plus riche de toutes les exégèses, de tous les commentaires des enseignements fondamentaux du bouddhisme selon la tradition de l'université de Nalanda. Donc grâce à cela, c'est en langue tibétaine à notre époque que l'on trouve cette tradition au complet. En ce qui concerne ensuite la façon dont se sont répandus les enseignements du bouddhisme en dehors de l'Inde, nous avons vu qu'il y avait donc deux langues principales qui ont été utilisées, le pali et le sanskrit. Ensuite, ces deux langues ont été à l'origine de deux façons de répandre le dharma, l'enseignement du Bouddha, se sont répandues dans d'autres pays à l'étranger, hors de l'Inde, de deux façons selon la langue qui a été utilisée. Les enseignements qui ont été donc rédigés en sanskrit, la plupart des sutras en sanskrit, ont été traduits est répandu en Thaïlande, au Sri Lanka, en Birmanie. Aussi, on trouve bien sûr l'ensemble du canon pali a été traduit en tibétain. Donc il est présent dans la littérature tibétaine. Maintenant, tous les écrits qui existaient en sanskrit ont été principalement traduits ou exportés dans deux pays. En Chine, où ils ont été traduits en chinois, et cela avant même que cela ait été traduit en tibétain, quelques siècles auparavant, et de la Chine, ces mêmes textes donc fondés sur le sanskrit se sont ensuite répandus en Corée, au Japon et au Vietnam. Alors maintenant, les textes qui ont été traduits en tibétain se sont ensuite du Tibet répandus en langue tibétaine, en Mongolie extérieure et intérieure, et dans trois des républiques de l'ancienne Union soviétique. Alors, au Tibet, comment ces traductions se sont faites? Nous avons vu sous l'inspiration du roi Trisong Desen, de l'abbé Shantarachita et du maître Padmasambhava. Et la plupart des textes ont été traduits directement du sanskrit. Dans les quelques 200 volumes de Tengyur, des collections des commentaires qui viennent de traduits en tibétain, il n'y a que 3 ou 4 volumes qui ont été traduits du chinois, parce que l'original sanskrit avait été à cette époque perdu. Mais la grande majorité, la quasi-totalité, était traduite directement du sanskrit. Et il y avait d'ailleurs déjà au Tibet des méditants chinois qui vivaient notamment près du monastère de Samye, et ils se consacraient principalement à la méditation. On les appelait les Hoshang ou les Hashang. Et donc le lieu où ils se réunissaient s'appelait Miyu Samtenling, le lieu de la concentration immuable, parce que c'était surtout des retraitants qui se consacraient à la pratique de la méditation. D'un autre côté, tous les grands traducteurs tibétains et des érudits indiens s'étaient rassemblés dans le lieu qu'on appelle le lieu des traducteurs, au Jagur Loliling. Et la plupart des textes ont été ainsi traduits directement du tibétain. Et une fois traduits, ils sont toujours utilisés maintenant, alors que les textes bouddhiques de chinois sont écrits dans une langue ancienne que peu de gens comprennent à notre époque. Alors que dans le tibétain, il est possible de les enseigner et de les comprendre sans problème, et ensuite de les mettre en pratique. Donc l'auteur de ce texte, le pandit Atisha, est né dans le royaume du Sahor, dans le Bengale, et dans une région qui est maintenant au Bangladesh, près de Calcutta, juste à l'autre côté de la frontière de l'Inde dans le Bangladesh. Et donc, son lieu de naissance est connu par les érudits indiens. D'ailleurs, il est de la même tribu ou de la même descendance que l'abbé Shantarachita dont nous avons parlé, celui qui a introduit ses textes en premier lieu au Tibet au 8e siècle. Alors, en ce qui concerne Shantarachita, selon la tradition tibétaine, on dit qu'il aurait vécu 1000 ans, ce qui est évidemment beaucoup. Récemment, un séminaire d'études a eu lieu en Inde, où des érudits indiens et tibétains se sont réunis pour discuter de la vie de Shantarachita. Et selon certains de ces érudits indiens, Shantarachita serait venu au Tibet, donc à la fin du 8e siècle, alors qu'il avait déjà 75 ans. Et puis, il serait resté environ une vingtaine ou 25 ans au Tibet, et il serait mort donc à l'âge environ de 100 ans. Alors, les Tibétains, bien sûr, ont souvent une vision très pure des choses, et cette vision pure, elle est parfois mêlée à l'histoire, ce qui fait qu'il est souvent distingué ce qui appartient à la vision pure et ce qui appartient à l'histoire, ce qui complique évidemment les études historiques. En ce qui concerne Shantarachita, une des reliques de son corps, notamment sa calotte crânienne, a été préservée parmi les reliques du monastère de Samye. Pendant la révolution culturelle, alors que tout a été détruit, ces reliques étaient préservées et récemment ressorties pour être à nouveau offertes au monastère. Peut-être il serait bien d'examiner les os de Shantarachita pour voir quel âge avait-il. Et certains Indiens disent qu'il a vécu 90 ans, les Tibétains ont rajouté un zéro. Mais pour ce qui est du fondateur même du bouddhisme, le Bouddha Shakyamuni, ses dates également ne sont pas sûres. Il y en a qui le font remonter à presque 3 millénaires. On dit qu'il serait né il y a 2700 ou 2800 ans. D'autres disent qu'il est né il y a 2500 ans, d'autres 2400 ans. Donc tous ces nombres, en fonction parfois de l'imagination des Tibétains, varient. Donc on ne sait pas vraiment sa date précise de naissance, mais des travaux plus récents montrent que ce serait aux alentours de 2500 ans. Donc le texte que nous étudions est bien sûr un texte qui appartient à l'enseignement du bouddhisme. Et qu'est-ce que le Bouddha qui a donné ses enseignements? Il y a un verset à la fin du texte racine de la voie du milieu du Madhyamika de Nagarjuna, le Madhyamika Tsavakarika, dans lequel un hommage est rendu à Gautama, le Bouddha, et qui dit en essence que celui qui est mu par une immense compassion et qui a dissipé toutes les vues fausses et qui a vu la vérité ultime, à lui, Gautama, je rends hommage. Et comment faire pour dissiper donc toutes les vues erronées? Et par vues erronées, on entend une compréhension fausse de la réalité, fausse de la nature de notre esprit. Et là, pour répondre à cela, il y a un autre verset qui dit que le Bouddha ne lave pas, ne dissipe pas nos obscurcissements, nos péchés avec sa main, qu'il ne purifie pas nos impuretés avec de l'eau, mais que pour atteindre à cette purification ultime, qui est la réalisation spirituelle, ce qu'il faut, c'est connaître la nature véritable des phénomènes. Et rien d'autre ne saura dissiper cette erreur. Seule la connaissance peut dissiper l'erreur. Par exemple, l'obscurité d'une nuit profonde, aucune autre méthode, quelle que soit celle que l'on peut essayer, ne dissipera l'obscurité si ce n'est la lumière. La lumière est la seule chose qui peut dissiper l'obscurité. Aucun autre moyen ne le fera. De la même façon, c'est par la connaissance de ce qu'on appelle le dharmata, la nature ultime, la nature véritable des choses et des phénomènes, que l'on peut dissiper les vues erronées, et c'est là aussi la seule façon de procéder. Donc ce qu'il faut, c'est bien éliminer toutes les vues fausses par le développement d'une vue correcte. Et de quelle façon est-ce que le Bouddha va nous montrer la façon de procéder pour cela? C'est en enseignant sur la nature interdépendante des phénomènes. Et par interdépendante, on veut dire que les phénomènes ne peuvent survenir qu'en dépendance avec d'autres ou en relation avec d'autres phénomènes, mais jamais par eux-mêmes. Donc c'est cela qui va permettre, c'est cette vue qui va permettre de dissiper les vues fausses. Et quelles sont ces vues fausses? C'est notre attachement à la solidité de la réalité. Alors, il est certain que tous les êtres cherchent à atteindre le bonheur. Il n'y a personne qui, sciemment et délibérément, cherche à construire à court terme et à long terme sa souffrance. Mais néanmoins, la réalité montre que nous souffrons. Il y a donc là, certainement, quelque chose qui cloche, une erreur, quelque part, parce que la façon dont nous procédons fait que, au lieu de remplir, de satisfaire toute cette aspiration au bonheur, nous, bien souvent, ne faisons que récolter de la souffrance. Donc, quelle est cette erreur? Comme nous l'avons mentionné hier, cette erreur repose principalement sur la différence qu'il y a entre la façon dont nous percevons les choses, ou la façon dont elles nous apparaissent, et leur nature véritable. Du fait de cette non-conformité à la réalité, nous faisons ensuite des erreurs en ce qui concerne ce qui doit être accompli et ce qui doit être évité pour atteindre le bonheur et éviter la souffrance, parce que nous partons sur des bases fausses, qui est celle d'une vue erronée quant à la nature des phénomènes. Et principalement, cette erreur repose sur quoi? Nous voyons des phénomènes qui apparaissent, qui demeurent pendant un certain temps, puis qui disparaissent. Certains sont jugés être bons, d'autres mauvais, beaux, laids, etc. Plaisants ou déplaisants. Mais le problème, c'est que bien qu'il y ait cette apparition, cette disparition des phénomènes, nous les percevons comme étant une apparition ou une naissance véritable. Il y a quelque chose de solide, de réel qui apparaît, et puis il y a quelque chose qui disparaît vraiment. Et donc, nous avons cet attachement à la solidité des phénomènes. Nous solidifions l'ensemble des phénomènes en pensant qu'il y a bien quelque chose de réel qui apparaît, qui demeure, qui disparaît, que les caractéristiques que l'on attribue aux phénomènes comme étant par exemple bon ou mauvais leur appartiennent en propre. Et pensant cela, naturellement, ce qui suit, c'est un attachement extrêmement puissant à ces caractéristiques des phénomènes. Ils existent ou ils n'existent pas, ils sont beaux ou ils sont laids. Et donc, ces attachements extrêmement forts vont ensuite donner naissance à des pulsions, soit de vouloir attirer à nous ou de désirer ce qui nous semble être plaisant, ou de repousser ou de détruire ce qui nous semble déplaisant. Et donc là, nous sommes dans un cycle erroné de confusion qui, au lieu d'aboutir au bonheur que nous cherchons, qui aboutit à la souffrance. Donc, ce qu'il faut reconnaître, et c'est ça ce qu'a montré le Bouddha, c'est que les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes, mais leur simple existence est d'apparaître en dépendance avec d'autres phénomènes. Il n'y a que des relations, il n'y a donc pas de choses qui existent en elles-mêmes. D'autre part, les caractéristiques de ces phénomènes, quelles que soient celles qui nous apparaissent, ne sont que des étiquettes, c'est-à-dire que nous accrochons des noms plaisants, déplaisants à ces phénomènes, mais mis à part cette identification conceptuelle, ces propriétés n'appartiennent pas aux phénomènes. Cet aspect est l'interdépendance subtile. Ce que nous avons parlé hier, les lois de cause à effet, des phénomènes animés ou inanimés, c'est l'interdépendance ou la survenue en dépendance au niveau plus grossier. Ici, lorsque l'on parle de ces relations et de ces simples étiquettes attachées à des phénomènes, c'est l'aspect plus subtil de l'interdépendance. Et donc, afin de dissiper l'inconnaissance, il faut reconnaître cela, et c'est cela qui va nous permettre de dissiper à la fois notre vue erronée à l'égard des phénomènes et par conséquent les causes de la souffrance. Il y a donc un verset que l'on trouve aussi de Nagarjuna qui dit « Envers ceux qui pensent que les choses naissent, demeurent et disparaissent, il faut dissiper cette erreur en comprenant la survenue en dépendance et le fait que tout ce que nous percevons comme caractéristiques ne sont que des étiquettes. » Donc maintenant, cet enseignement de l'interdépendance ou de la survenue des phénomènes en interdépendance a été principalement enseigné dans la Prajnaparamita, la perfection transcendante de la sagesse. Cette Prajnaparamita, on la trouve dans différentes écritures, notamment les écritures données par Maitreya au grand maître Asanga. Il y a là 5 volumes principaux. Et parmi ces enseignements, il y en a un qui s'appelle l'ornement de la réalisation, qui décrit de façon extrêmement vaste l'ensemble des phénomènes, de la façon dont ils apparaissent en interdépendance, en relation les uns avec les autres. Et il y a également un autre corps d'écriture qui vient de Nagarjuna. Et donc cette première série d'écrits est appelée la lignée ou la transmission de la conduite ou de l'action vaste. En contrepartie avec cela, il y a les textes de Nagarjuna qui sont appelés la lignée profonde des vues métaphysiques et qui mêlent sur la vacuité, qui relie la notion d'interdépendance à celle de vacuité des phénomènes. Donc parmi ces écrits de Nagarjuna ne sont pas divisés en autant de sections que ceux de Maitreya, mais on les trouve dans certains traités fondamentaux comme le texte racine de la voie du milieu, le Madhyamika Mulakarika, ainsi que ce qu'on appelle les 6 traités de l'analyse ou de la connaissance. Et donc nous avons ces deux lignées principales concernant les vues philosophiques et celles de l'interdépendance. Alors, principalement, donc comme nous en avons parlé hier, on reconnaît 3 épisodes de la mise en mouvement de la roue de la loi dans les enseignements du Bouddha. Et dans le premier, il a enseigné non seulement les 4 vérités, mais aussi ce qu'on appelle les 4 sceaux, comme un sceau que l'on appose sur quelque chose. Et ces 4 sceaux sont que tous les phénomènes sont impermanents, que les phénomènes composés et les agrégats sont liés à la souffrance, que si l'on examine ces phénomènes, on n'y trouve aucune entité, aucun soi, aucun atman, et que la vue profonde est celle de la vacuité. C'est par cette vacuité que l'on atteint à l'au-delà de la souffrance, le nirvana. Alors, dans cette première mise en mouvement de la roue de la loi, la principale chose ou attachement qui est dissipé, c'est l'attachement à la notion d'un soi ou d'une entité individuelle. Mais ce n'est qu'un début parce que reconnaître qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y a pas d'entité qui représente une personne, n'est pas suffisant pour comprendre l'absence d'entité ou d'identité ou de soi dans l'ensemble des phénomènes. Mais néanmoins, c'est un début très essentiel. Ce n'est peut-être que l'aspect le plus extérieur de cette compréhension de la doctrine du non-soi, de l'anatman, mais néanmoins, elle nous concerne intimement puisque le plus grand attachement que nous avons dans tout ce qui concerne le monde des phénomènes, c'est bien sûr à nous-mêmes, à savoir à la notion d'un individu. Mais c'est donc à ce premier attachement que vont s'attacher les 2 premières vues principales du bouddhisme qui sont regroupées, ce qu'on appelle parfois le petit véhicule, à savoir les vues du Vaibhashika et du Sotantrika, qui ne s'occupe donc principalement que de dissiper cette notion d'un soi dans les phénomènes. Alors, dans le deuxième épisode de la mise en mouvement de la roue de la loi, le Bouddha donc a enseigné la vacuité profonde, la Prajnaparamita, dans lequel on dissipe non seulement l'attachement à cette notion d'un soi personnel, mais celui d'un soi dans l'ensemble des phénomènes. Maintenant, donc pourquoi est-ce que nous avons cet attachement si profond au moi, au soi? C'est bien sûr parce que c'est ce qu'on appelle la personne, c'est-à-dire ce flot en continuelle transformation que nous appelons une personne, mais qui n'est qu'un flot dynamique constamment changeant. Eh bien, c'est lui, bien sûr, qui fait l'expérience du bonheur et de la souffrance. C'est lui qui, donc, est le plus important à notre regard, car en fait, pour nous, nous sommes au centre du monde. C'est clair, le moi, ce que nous percevons comme un moi, c'est au centre du monde. Lorsqu'on parle des quatre directions de l'espace, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, c'est toujours par rapport à nous. Comment pourrions-nous autrement définir les directions de l'espace ? Et cela conduit toujours à penser que nous sommes au centre du monde parce que c'est en fait notre vision des choses, notre perspective ne peut être autre que celle que percevoir que nous sommes au centre du monde. Et d'ailleurs, on voit que c'est aussi une perception commune. Par exemple, au point de vue du bouddhisme, on dit que l'Inde, où naît le bouddhisme, et principalement le trône de diamant des Indes, Vajrasana, où le présente Bodh Gaya, on dit que c'est le centre du monde. La Chine s'appelle traditionnellement l'empire du milieu, c'est-à-dire qu'on est au milieu du monde. Et une fois, je suis allé à Mexico et les gens m'ont dit, vous savez, nous, si on regarde la carte, on est au centre du monde. Et en fait, c'est vrai de ce point de vue. On peut même dire non seulement qu'on est au centre de notre terre, mais moi, personnellement, si nous pensons à cette notion de moi, ce sentiment que nous avons du moi, eh bien, nous sommes au centre de l'univers. Donc, ce sentiment inné du moi est très important, parce que c'est comme ça que nous nous relions au monde. Et ce moi, donc, désire éviter la souffrance, il désire atteindre au bonheur, et en fonction de ça, se pensant au centre du monde, il accomplit toutes sortes d'actions, il accumule donc un karma. Vu que nous avons cet attachement profond à la notion de moi, ces actions vont être reliées à cet attachement, et donc le moi va vouloir se protéger, il va vouloir attirer à lui, donc désirer tout ce qui lui semble être plaisant ou favorable à sa survie, à son épanouissement, à son plaisir. Il va vouloir repousser tout ce qui lui semble une menace ou qui lui semble déplaisant. Et ainsi, donc, il va attirer à lui toutes sortes de souffrances par le simple fait que, se plaçant ainsi au centre du monde et reliant tout à ce moi, il va vouloir se débarrasser de ses ennemis, attirer ses amis, parce que de cette notion de moi, naturellement, suit la notion de mien, la notion de possession, donc mes proches, mes biens, et puis tous ceux qui menacent soit ce moi, soit nos proches, soit nos biens, on se considère comme des ennemis que l'on doit repousser. Et donc on voit que ce processus ne fait qu'accentuer cet attachement au moi, le renforcer et donc le solidifier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très néfaste à l'individu. Même médicalement, c'est reconnu. J'ai été une fois à un congrès aux États-Unis où un médecin disait qu'ils avaient analysé le discours des gens et que ceux qui, dans lesquels on trouvait, dans leur façon de parler, très nombreuses fois mentionné « je »,« moi »,« mien », eh bien ces gens-là étaient beaucoup plus sujets aux crises cardiaques. Donc ça veut dire qu'avoir un attachement excessif au « moi » donne une sorte d'anxiété, de malaise qui se ressent également sous la santé. Mais d'où vient cette notion de « moi » ? En fait, le « moi » surgit à notre esprit, mais il n'existe certainement pas tel que nous pensons, de la façon dont il nous apparaît. Si l'on demandait à un docteur de trouver dans nos agrégats, notre corps et notre conscience, le moi, il serait bien en peine de l'isoler. Et donc, par exemple, nous avons ce sentiment inné, mais imaginons que notre corps dégénère, que nous soyons très malades ou que nous vieillissons, et qu'on nous propose un corps tout jeune et beau, et nous dirons « Ah bah très bien, je vais changer de corps. » Donc si nous nous apercevons que ce qui fait pour nous l'expérience de la joie et de la souffrance, ce que nous appelons le moi, n'existe pas en tant qu'une entité solide qui existe par elle-même, qui tient sur ses propres jambes, qui a une existence en soi, cela nous aide énormément à dissiper les attachements extrêmement puissants que nous avons à l'égard des phénomènes, attachements qui prennent la forme d'attraction ou de répulsion. Je donne souvent un exemple d'un objet, par exemple, si nous voyons une belle montre dans une vitrine ou sur le poignet de quelqu'un ou simplement posée là, certes, nous pouvons avoir ce sentiment, c'est une jolie montre, il y a un léger sentiment d'attachement à l'égard de cette montre, mais très faible. Par contre, si nous venons d'acheter cette montre, brusquement, elle prend une allure tout à fait différente. C'est ma montre. Et il y a cette notion que c'est une belle montre, un attachement ou quelque chose de beaucoup plus fort qui maintenant s'est mis en place, et qui est ma montre et tout ce qui peut lui arriver, si je la perdais ou si elle se cassait, me concerne intimement. Et pourquoi ? C'est simplement parce que brusquement, l'attachement à cette montre s'est considérablement augmenté. Mais en elle-même, cette montre, évidemment, n'a pas changé. Que nous la voyons ou pas, qu'elle soit nôtre ou pas, cette montre est ce qu'elle est, et c'est tout. Donc c'est simplement une projection de l'esprit, un attachement qui est lié à une sorte de saisie des phénomènes. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que tout ce qui concerne le moi, le plus il y a ce sentiment de saisie qui l'accompagne, le plus nous serons attachés à notre corps, à nos possessions, à ceux qui nous considérons comme des proches, et par cela on entend ceux qui ont une attitude favorable à notre égard. C'est comme ça que nous déterminons ce que nous considérons comme des amis. Et cet attachement extrêmement fort va s'accompagner d'une répulsion tout aussi forte pour ceux qui mettent en danger mon individualité, mon corps, mes possessions, ceux que je considère comme des amis, et que nous allons donc étiqueter comme des ennemis parce qu'ils ont à l'égard de ce moi une attitude défavorable ou inquiétante ou menaçante. Donc tout ça est très clair dans nos expériences. Et une fois que ce sentiment de moi, de mien, etc. est devenu extrêmement fort, alors il suffit de tout petits événements ou circonstances pour déclencher de très fortes réactions, soit d'attirance ou de répulsion. Donc on comprend bien pourquoi les vues philosophiques ou la pratique de la voie du bouddhisme s'est tout d'abord attachée, avant toute chose, à essayer de dissiper cette mésentente à propos de l'existence du moi. C'est ça qui fait le corps principal des deux premières parmi les quatre vues philosophiques du bouddhisme. Et ces deux vues principales, donc, qui appartiennent, comme nous l'avons dit, aux petits véhicules, et qui sont celles des Vaibhashika en sanskrit et des Sotantrika. Alors pour eux, ils recherchent ce moi, ils démontrent qu'il n'y a pas d'identité existante en elle-même dans l'individu, mais ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin, ils ne poursuivent pas cette analyse jusqu'au phénomène. Alors par contre, lorsque l'on rentre dans le grand véhicule, les enseignements de la Prajnaparamita, de la connaissance transcendante, là, on en vient à conclure par l'analyse, bien sûr, que tous les phénomènes en général, quels qu'ils soient, y compris bien sûr le moi individuel, mais aussi tous les phénomènes qui sont l'objet de nos perceptions, n'ont pas d'existence en elles-mêmes. Elles n'ont pas de réalité propre. Et cela est vrai depuis les formes jusqu'aux phénomènes les plus élevés, ceux de l'omniscience, de la bouddhéité. Alors cela a été montré dans de nombreux sutras, mais particulièrement mis en évidence par Nagarjuna, qui non seulement a montré que la nature ultime était cette vacuité d'existence propre, mais il a montré aussi que reconnaître que les phénomènes étaient dénués de réalité ultime était équivalent à reconnaître que les phénomènes survenaient en dépendance ou en relation avec d'autres phénomènes, que c'était une seule et même chose. Et donc, on avait ainsi d'un côté le point de vue de la vacuité, d'autre, l'autre côté, une compréhension des phénomènes eux-mêmes. Et ça, c'est donc l'aspect le plus profond de l'interdépendance. Ce n'est pas seulement les lois ordinaires de cause à effet, car cela éclaire la façon dont les phénomènes existent. On ne peut pas nier leur simple existence, puisqu'ils nous apparaissent. Donc, les phénomènes ne sont pas un néant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment existent-ils. Alors que d'habitude, nous pensons qu'ils existent de façon solide, Nagarjuna, en montrant que l'interdépendance et la vacuité étaient une seule et même chose, montre bien que la façon dont ils existent, c'est par une apparition sous forme de relation, de dépendance sur d'autres phénomènes. Nous ne dirons pas d'autres choses, mais d'autres phénomènes ou d'autres événements. Et cela est vrai pour tout ce qui est des phénomènes de l'univers inanimé et aussi des phénomènes de conscience, des phénomènes animés. Tous donc sont dépourvus de réalité propre, tous ne sont que de simples apparences. La façon dont nous le percevons nous-mêmes, la façon dont nous les identifions comme tel ou tel phénomène, ne sont que des simples désignations conceptuelles. Donc cela s'applique non seulement au sujet qui fait l'expérience du monde phénoménal, mais aussi aux différents objets qui sont nos objets donc d'expérience. Donc là, on a un point de vue beaucoup plus vaste, qui est celui de l'absence d'entité, non seulement dans la personne, mais dans l'ensemble du monde phénoménal. Et donc, si l'on comprend cela, on comprend bien qu'au sein d'une telle compréhension, eh bien, les impulsions d'attachement et de répulsion seront beaucoup plus faibles, car cette diminution de l'attachement et de la répulsion ne concerne pas seulement le sujet de l'expérience, mais aussi les objets de cette expérience.